Bonjour, c'est Jean Lebrun. Nous vous offrons en complément à une semaine consacrée à Albert Camus, en bonus, le témoignage d'un de ses vieux frères, Louis Guillou, l'écrivain.
Aujourd'hui, Louis Guillou, breton de pure race, grand écrivain, auteur notamment du Sang Noir, qui a été étroitement lié avec Albert Camus, va rappeler quelques souvenirs.
Mais je ne connaissais Albert Camus que par des ouvrages, à savoir Le Mythe de Sisyphe et L'Étranger, et puis par les éditoriaux de combat. Et j'étais en province, et en même temps que je lisais ces livres, je reçois une lettre de mon ami Grenier, qui avait été son professeur à Alger, et qui me dit « Qu'est-ce que tu penses de mon ancien élève Albert Camus ?» Ben, je lui ai répondu que j'en pensais le plus grand bien. Sur ce que j'avais lu, j'étais déjà très attiré par Camus. Un peu plus tard, je suis allé à Paris, comme souvent, et à la Nouvelle Revue Française, en montant l'escalier, sans l'intention d'aller tout en haut, il avait son bureau, j'allais je ne sais où, Gaston Gallimard descendait, et il me dit « Ah, venez, il y a justement deux personnes là qui veulent vous voir, Camus est avec Grenier, et on a appris que vous étiez dans la maison, on veut aller vous dire, que vous veniez dire bonjour. » Ce que j'ai fait, bien sûr, avec le plus grand plaisir. Alors mon vieil ami Grenier était là, et Camus, et j'ai été immédiatement conquis, ébloui, charmé, enchanté, ravi et heureux de cette connaissance que nous avons poursuivie au café. Et depuis ce jour-là, et pendant encore 16 ans, on s'est vu ou correspondu, ou on ne s'est pas quitté, en somme dans l'amitié, n'est-ce pas, jamais. C'était un homme radieux, un homme solaire, un homme d'une gaieté presque quotidienne, n'est-ce pas, qui était à la fois une gaieté conquise et une gaieté naturelle. Conquise sur les événements de la vie, sur les événements personnel et le monde, n'est-ce pas, qu'il combattait enfin, pour lequel il luttait. Et en réalité, il était presque toujours, n'est-ce pas, il se dominait, il était presque toujours très gai, très très gai, très amusant. Et même avec de grands éclats de gaieté algérienne, qui étaient beaux à voir. Il ne m'a pas parlé de ses livres, c'était pas un homme à parler de ses livres. Il ne parlait pas des choses qu'il allait faire. Il lui est arrivé, j'ai lu le manuscrit de la peste avant la publication. Il demandait conseil à ses amis, volontiers, n'est-ce pas? On parlait de ces choses, mais sans insistance, sans pédantisme, sans... Pas l'homme de lettres, absolument jamais. Il avait autant besoin des autres que les autres avaient besoin de lui, n'est-ce pas? Il vivait dans l'humain, ça. Je m'excuse de l'expression qui a l'air bien pédantesque, mais enfin, c'était comme ça, n'est-ce pas? Camus était un homme très présent et pas du tout engoncé dans sa philosophie, n'est-ce pas? Elle était une part essentielle de sa vie, il n'accablait pas les autres avec ça. Quand on allait dîner ensemble, on s'amusait comme des fous. Il était assez seul dans son combat, il tenait d'ailleurs à cette solitude, il le menait en somme, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que sa démarche? Elle part de l'absurde pour aboutir à une morale. La morale est celle, n'est-ce pas, elle consiste à dire on ne fait pas n'importe quoi, voilà ce qu'il faudrait faire. C'était un homme, n'est-ce pas, entièrement engagé dans un combat assez solitaire, malgré la quantité très nombreuse de gens qui lui sont restés, qui lui ont été, lui sont restés fidèles, n'est-ce pas? Et il menait ce combat héroïquement et solidement. Et j'ai de nombreux souvenirs d'Albert, naturellement. Mais il se trouve que par le fait des circonstances, son père est enterré à Saint-Brieuc, qui est ma ville natale. Camus est venu me voir à Saint-Brieuc, et c'est moi qui l'ai conduit, n'est-ce pas, au carré des soldats, où son père est là depuis l'année 1915. Son père a été mobilisé dans les Zouaves, et il a été sérieusement, et comment donc, gravement blessé, n'est-ce pas, à la Marne, ou tout de suite après. Et ramené dans un hôpital complémentaire à Saint-Brieuc. Il était blessé à la tête, il était aveugle, il est mort au bout de 8 jours. Je dois ajouter à cela que lorsque le malheur est arrivé et qu'il est mort sur la route, n'est-ce pas, dans l'accident que l'on sait, la municipalité de Saint-Brieuc, très spontanément, a fait porter des fleurs sur la tombe du père Camus. C'est pas du tout un redresseur de tort, c'est, je sais pas, un redresseur de mal. n'est-ce pas, aussi bien dans l'ordre moral que dans l'ordre, je veux dire, physique, par le fait de la quantité de gens qu'il a aidés, secourus, de son temps, de son argent, de tous les moyens qu'il a pu, sans... On le sait, c'est pas lui qui le disait, n'est-ce pas? Mais on savait très bien qu'il y avait des gens que l'on, qui l'aidaient comme ça constamment. En plus des jeunes auteurs, n'est-ce pas? Je crois que pendant très longtemps, il a été un lecteur très attentif à la NRF, qu'il a vu et conseillé, aidé pas mal de gens, n'est-ce pas? Que sous ce rapport, il est sans faiblesse. La musique ne lui était pas étrangère, qu'il était très, très... musicophile, n'est-ce pas? Je me souviens d'une soirée que nous avons passée ensemble avec Bloch Michel et d'autres amis chez lui à écouter un enregistrement de Mozart, par exemple, n'est-ce pas? Je sais comment il en parlait. Il est devenu un ami, n'est-ce pas? Il est devenu un grand conseiller, si vous voulez, et enfin, ami, je préfère, n'est-ce pas? Il est devenu un ami pour beaucoup de monde, il le reste. Il a pas mal d'ennemis, ce qui est étrange. Ce qui est étrange, mais c'est plutôt pour des raisons politiques ou autres, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec cette profondeur d'humanisme qu'il avait. Et voilà ce que j'en pense, n'est-ce pas.
Le mieux n'est-il pas de passer la parole à Albert Camus, qui va nous entretenir de ses goûts et de ses préférences et se situer relativement à l'époque. Il vous suffira de l'écouter pour prendre une dernière fois conscience de ce que nous avons perdu avec lui, de son irremplaçable lucidité, de sa noblesse de cœur et d'esprit, et comprendre la leçon qu'il nous a donnée.
Je ne pense pas que l'artiste puisse se séparer de son temps, par exemple, mais je crois qu'il est obligé de lui donner la forme originale qu'il est tenté de lui donner en tant que personne. Et que, de la même manière, en somme, qu'on ne peut pas dire si c'est une route qui use les souliers ou les souliers qui usent la route, il est impossible de dire si c'est son siècle et ses contemporains qui forment l'écrivain ou l'écrivain qui forme ses contemporains. Il y a une interaction qu'on essaie en vain de nier et dont on ne peut absolument pas sortir. Ceci dit, je dois confesser qu'il m'arrive d'avoir envie d'être solitaire. J'ai le sentiment profond de me rattacher, avec naturellement mes limites, à la tradition classique française. Et la chose est si forte en moi que j'ai le sentiment, quand je sens, si vous voulez, mes racines, n'est-ce pas, de sauter deux siècles en arrière. J'ai toujours pensé que tous les personnages d'un écrivain représentaient une de ses tentations. Pour moi, un écrivain, c'est une vitalité. Une vitalité, c'est évidemment une force de vie multiforme. Eh bien, je ne peux pas vous dire lequel de mes personnages peut être considéré comme un de mes porte-paroles. J'ai l'impression que je les suis tous, même ceux qui peuvent paraître moins sympathiques que les autres. Naturellement, les tentations changent, comme vous savez, avec l'âge. Ceci dit, il y a peut-être des personnages pour qui j'ai plus d'affection de cœur, si vous voulez. Ce ne sont pas toujours ceux qui me ressemblent le plus, ce sont ceux auxquels je voudrais le plus ressembler. La nuance est sensible, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'on puisse me demander d'être un optimiste au sens où on l'était, par exemple, lorsque Ernest Renan écrivait L'avenir de la science, c'est-à-dire, je crois, en 1848. Renan pensait que le monde marchait vers des délices renouvelées par des actions sans cesse répétées. Eh bien, je crois que pas un d'entre vous n'est optimiste aujourd'hui. Je ne crois pas que, parce que le monde risque une déflagration générale et une destruction générale, cela puisse ôter de nos décisions d'agir ou de notre recherche de valeurs qui nous permettent de vivre plus librement et plus dignement. Et en ce sens, c'est peu de dire que je suis optimiste. Je suis un optimiste indéracinable. Je n'appartiens à aucun parti et par conséquent je me borne à poursuivre une réflexion personnelle dont je sais d'avance toutes les limites. Ceci dit, après 20 ans d'une expérience où je crois n'avoir refusé aucun des des drames de l'époque, j'en suis venu à cette idée que la liberté était le plus haut et le plus sûr des biens. Non pas parce que cette valeur suffisait à créer les sociétés, mais parce qu'elle permettait de les améliorer. Tandis que j'ai toujours pensé que la tyrannie ne le permettait pas. Je dis qu'il arrivait qu'on soit obligé de combattre un mensonge total au nom d'un quart de vérité, mais qu'en ce qui concernait l'Occident, ce quart de vérité s'appelait la liberté, et en conséquence, elle était la source d'une vérité plus grande que nous espérons tous, et en tout cas qui dépend de nous. Il m'est arrivé d'écrire des choses qui correspondent à ma conviction profonde, à savoir qu'il y avait dans l'homme une part de mystère. Eh bien, dans la société d'aujourd'hui, ça suffit. Et ceci dit, je crois aussi qu'un de mes derniers livres, ayant parlé avec chaleur de la personne du Christ, je dis de la personne du Christ, n'est-ce pas, peut-être que... Mais je ne vois pas pourquoi je n'avouerais pas à la fois l'émotion et le sentiment extrêmement profond que je me sens devant l'histoire personnelle du Christ et devant son enseignement, n'est-ce pas? Et je crains malheureusement que dans certains milieux, en Europe en particulier, dans certains milieux qu'on dit de gauche, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, l'aveu d'une ignorance ou l'aveu d'une limite à la connaissance de l'homme, le respect du sacré, n'est-ce pas, paraissent comme des faiblesses. Si ce sont des faiblesses, je les assume avec force, n'est-ce pas. Je n'ai que vénération et respect devant la personne du Christ et devant son histoire, je ne crois pas à sa résurrection. Les philosophes communistes disent que je suis un philosophe réactionnaire. Les philosophes réactionnaires disent que je suis un philosophe communiste. Les athées me trouvent très chrétien. Les chrétiens déplorent mon athéisme, n'est-ce pas? Si bien que je suis un peu perdu au milieu de ces demandes contradictoires, et j'ai décidé de continuer à être ce que je pouvais être et comme je pouvais l'être.
Dans la série d'émissions de Pierre Minet consacrée à Albert Camus, réalisée par Michel Duplessis, assisté de Jean-Yves Bizet, la collaboration technique de Roger Bailly, des équipes des émissions extérieures, et avec le concours de Jean Bollery, vous venez d'entendre la sixième et dernière de la série d'émissions consacrée par Pierre Minet à Albert Camus.